Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième temps de notre semaine consacrée au commun, après avoir vu lundi que le commun se pensait difficilement sans la propriété privée, après avoir observé hier ce commun si singulier qu'est la nature, on s'intéresse aujourd'hui aux ressources inépuisables du numérique. Depuis l'internet des origines jusqu'aux GAFA, les géants du web, quelles possibilités nous offrent les communs de la connaissance? Le numérique serait-il l'eldorado des communs, le projet le plus abouti de cette théorie du partage et de l'autogouvernance? Ou est-il au contraire menacé à l'heure notamment où le Parlement européen se penche sur une réforme contestée des droits d'auteur ? Le numérique, un commun fragilisé, on en parle avec Judith Rochefeld, professeure de droit à Paris 1 et co-directrice du Dictionnaire des biens communs paru au PUF, et Sébastien Broca, sociologue, maître de conférence à Paris 8 et auteur de Utopie du logiciel libre paru aux éditions du Passager clandestin. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
J'ai lancé le mouvement logiciel libre en annonçant le projet de développer un système d'exploitation qui serait 100% composé de logiciels libres sans une seule ligne de code privateur. Windows, Mac OS, la moitié d'Android et tout le système des e-monstres d'Apple. Ces systèmes sont plus ou moins privateurs. Mais moi, j'étais informaticien, j'étais programmeur. Je travaillais dans un laboratoire à MIT où nous utilisions un système d'exploitation libre développé principalement par nous. Au commencement, le logiciel libre existait partout. Mais 10 ans plus tard, tout ça a été disparu. Sauf à notre laboratoire, c'était une île de liberté dans un monde soumis au pouvoir des développeurs commerciaux du logiciel.
Bonjour Judith Rochefeld et Sébastien Broca.
Bonjour.
Bonjour.
On entendait le développeur Richard Stallman nous parler de la révolution et du logiciel libre dans les années 80. Alors ce qu'il faut commencer par dire peut-être, c'est que dès les origines d'Internet, ses créateurs ont voulu en faire un gigantesque commun mondial. Sébastien Broca.
Oui, et je pense qu'on peut dire que depuis l'origine, Internet est un commun, même s'il n'a pas toujours été peut-être théorisé comme tel. C'est vrai que par exemple, les protocoles qui sont à la base d'Internet, les protocoles TCP/IP notamment, sont des protocoles ouverts, donc on peut considérer que ce sont des communs. Après, si on prend l'histoire de l'informatique, c'est ce qu'évoquait Richard Stallman dans l'extrait qu'on a entendu, pendant longtemps, jusqu'au début des années 80, les programmes informatiques étaient librement partagés entre les informaticiens, donc on pouvait aussi les considérer comme des communs. Après, les choses n'étaient pas forcément théorisées comme telles, et du reste, là, Richard Stallman, qu'on vient d'entendre, ne théorise pas les choses en termes de communs, mais en termes de logiciels libres. Alors c'est plutôt dans un deuxième temps, ensuite, dans les années 90-2000, qu'on s'est aperçu que les logiciels libres, comme d'autres réalités, pouvaient être intégrés au sein d'une réalité plus large que sont les communs.
Internet comme un grand commun, c'est un esprit qui est résumé par la devise des premiers utilisateurs d'Internet, RAF Consensus and Running Code, consensus sommaire et code courant, Judith Rochefeld.
Oui, et je pense qu'il faut qu'on se raccroche à une actualité qui est quand même très très importante. Je me permets de la ramener vers nous aujourd'hui parce que Internet comme un grand commun est menacé aujourd'hui, étant donné que l'agence des communications américaines qui avait qualifié juridiquement ou en tout cas symboliquement Internet comme un bien public mondial, ce qui n'était pas rien pour assurer que chacun puisse y faire transporter tous les contenus qu'il souhaitait et que la liberté d'expression, la liberté d'information
l'information soit garantie, eh bien, on a un retour en arrière très contesté de l'administration de Trump, avec beaucoup de résistance de la société civile américaine et de certains États américains. Mais on est en plein dans une question d'actualité, à savoir effectivement si on va réinstaller des obstacles ou des barrières, des discriminations, des différences entre les contenus, selon qu'on paye ou selon qu'on ne paye pas, selon sa taille ou pas. Et donc, on est vraiment dans une question d'actualité.
Alors, on va revenir sur ces questions d'actualité, en effet, mais restons encore un peu sur ces débuts d'Internet. On entend ce mantra « code is law », c'est le code qui fait la loi. C'est une expression du juriste américain Lawrence Lessig qui émerge en 2000. Ça signifie que les grandes décisions techniques sont porteuses d'enjeux sociaux décisifs et qu'elles doivent donc être considérées comme profondément politiques, Sébastien Broquin.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que quand justement Lessig il dit ça, et il est très influencé par justement le discours de Richard Stallman et ce qu'a montré le mouvement de logiciel libre, qui en fait a été pionnier en ce sens que des années 80, alors que finalement peu de gens en avaient conscience. Et puis c'était difficile d'imaginer le poids que l'informatique, les technologies numériques prendraient dans notre monde peut-être. Et donc Richard Stallman, avec une certaine préscience, disons, comprend dans les années 80 que ce sont pas simplement des enjeux techniques, mais il dit le logiciel libre c'est un mouvement social. Parce qu'il est porteur d'enjeux politiques, sociaux, économiques aussi ensuite, mais surtout politiques et sociaux, et que lui comprend essentiellement à travers la question de la liberté d'utilisateur. Pour lui, des programmes donc, qu'il appelle privateurs ou propriétaires privent les utilisateurs d'un certain nombre de libertés, liberté d'exécuter ces programmes, de les copier, de les modifier. Et donc pour lui, il faut rendre ces libertés aux utilisateurs. Et donc le logiciel libre est un mouvement social et politique qui vise à préserver les libertés de tous les utilisateurs.
Alors peut-être faut-il maintenant définir ces communs numériques qui font partie des communs de la connaissance. Quelles sont leurs spécificités, Judith Rochefeld, par rapport aux autres communs, par exemple l'eau, la terre, qu'on évoquait hier, au-delà du fait que ce sont des communs immatériels et non matériels?
Oui, alors je vais juste me permettre au préalable de revenir sur deux visions qu'on peut avoir du commun et qui sont très présentes chez les penseurs du numérique. C'est-à-dire qu'on a une vision très très large qui est celle de mise en partage de certains éléments de connaissances, d'informations, de données, voire d'œuvres si elles sont passées dans le domaine public. Enfin, tout ce qui peut être mis en partage, accessible à tous, ça c'est la vision, je dirais, très large des communs numériques. Et puis il y a une vision beaucoup plus étroite qui serait le sens de commons au sens plus étroit. Alors là, on ajouterait l'idée que c'est pas seulement accessible à tous et mis en partage. On ajouterait les idées qu'on a une ressource, une information, des données, des œuvres par exemple, qu'on va distribuer des droits très très précisément et qu'on va gouverner cette ressource selon des règles que la communauté aura acceptées et qu'elle se voit imposer. Donc on a vraiment les deux classes de communs, je dirais, qui sont présents dans le monde numérique. Et qu'est-ce qu'aurait de spécifique, si on va par là, les communs numériques, c'est que techniquement, déjà, leur spécificité, c'est qu'ils permettent une reproduction très facile, un accès très aisé. On peut créer, recréer à partir d'éléments qui sont sur le numérique. Donc techniquement, ils ont le partage, je dirais, technique beaucoup plus ouvert que d'autres ressources, bien que en général, on parle de communs à partir de ressources qui exclut difficilement les autres, mais techniquement c'est rapide, c'est facile. Et puis pour revenir à ce qui a déjà été croisé comme philosophie ou comme sociologie de l'internet et du numérique, c'est vrai qu'à l'origine l'idée de partage, l'idée de liberté d'information, de création grâce à ces moyens techniques très aisés était intrinsèque, ou en tout cas si on veut pas faire de l'essentiel, était dans la sociologie, dans la philosophie des premiers participants.
Donc si je vous comprends bien, c'est aussi cette idée que ces biens, ces communs numériques sont non rivaux, c'est-à-dire une information peut servir à plusieurs personnes, contrairement à une ressource matérielle, et aussi le fait que les plateformes numériques s'enrichissent au fur et à mesure des données d'usage, c'est-à-dire que ce sont les contributions qui font la valeur, c'est ça aussi la spécificité.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on peut dire que la spécificité des communs numériques informationnels, c'est qu'ils sont en général, pas tout le temps, hein, mais beaucoup d'entre eux d'accès universel. Hein, c'est le cas de Wikipédia ou des logiciels libres, parce que vu qu'il n'y a pas d'enjeu d'épuisement de la ressource, hein, ça c'est lié au caractère non rival, ils peuvent être accessibles à tous. Donc ça, c'est ce qui les distingue souvent des communs du monde physique. Et donc c'est vrai que les enjeux, finalement, quel problème posent ces communs, ils posent souvent des problèmes qui n'ont pas trait tant à leur consommation, puisque celle-ci est non rivale, mais à leur production. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va faire faire pour produire ces communs, qui va les produire, dans quelles conditions, et puis éventuellement avec quelle forme de rémunération ou de rétribution. Et donc là, on commence à toucher au lien des communs avec l'économie, et notamment l'économie numérique.
Alors le début des années 2000 marque un tournant dans la culture du commun dans le numérique, avec la création donc de la licence Creative Commons par Laurence Lessig.
So Creative Commons is a non-profit that was set up.
Les Creative Commons représentent une initiative non lucrative, mise en place dans le but de faciliter l'expression de la liberté que les artistes et les créateurs portent à travers leurs œuvres. Il ne s'agit pas d'une liberté totale. Ces artistes ne renoncent pas à tous les droits associés à leur créativité, mais beaucoup d'entre eux reconnaissent librement qu'une partie de leur créativité provient de celle d'autres personnes, sans pour autant craindre un quelconque avocat ou se poser la question de la responsabilité juridique. Et ce que nous voulions faire, c'était de faire en sorte que ce soit facile pour eux de le reconnaître. Nos licences marquent donc le travail créatif du sceau de la liberté qui va de pair avec ce travail. Vous êtes donc libre de remixer le travail, libre de l'utiliser à des fins non commerciales et même, dans certains cas, de l'utiliser pour des fins commerciales sans avoir les besoins d'un juriste en amont. Et en retirant les juristes du processus, les créateurs peuvent à la fois représenter ou faire reconnaître et protéger leur propriété intellectuelle, mais aussi inviter d'autres personnes à rejoindre ce processus créatif sans avoir à redouter des questions de responsabilité juridique qui seraient liées.
Laurence Lessig expliquant les principes des Creative Commons, c'était en 2010, donc il y avait des logiciels libres. À partir de ce moment, il y a également des licences libres. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer simplement la différence entre les deux ? Sébastien Broca.
Alors les licences libres en général, donc ça vient effectivement du monde du logiciel, du logiciel libre. Et ensuite, les Creative Commons donc arrivent dans un deuxième temps. Elles sont créées en 2003, alors que la licence libre emblématique, la General Public License, est créée à la fin des années 80. Donc c'est une sorte de deuxième phase où Laurence Lessig, donc grandement inspiré par Richard Stallman, se dit il faut créer des outils juridiques qui n'existent pas pour que tous les créateurs, pas simplement les informaticiens, mais aussi les artistes, les universitaires, puissent choisir en fait librement sur leurs œuvres quelles prérogatives ils veulent garder pour eux de manière exclusive et quelles prérogatives ils sont prêts à accorder à leurs utilisateurs, par exemple le droit d'utiliser commercialement leur œuvre ou le droit de la modifier. Donc c'est ce qu'explique Lessig dans l'extrait qu'on a entendu. Le but des Creative Commons, c'est vraiment de faire quelque chose qui est un peu à la carte, on pourrait dire, en tout cas de donner le choix aux créateurs entre différentes licences pour vraiment choisir avec un niveau de granularité assez élevé qu'est-ce qu'ils veulent garder comme prérogative et qu'est-ce qu'ils veulent accorder à leurs utilisateurs.
Oui, parce qu'il faut dire que c'est à la fois un complément donc au droit d'auteur, un label communautaire et une philosophie du partage qui se décompose en six licences différentes qui comportent chacun un degré de liberté différent, Judith Rochefeld.
Oui, et ça nous fait toucher du doigt quelque chose qui est quand même au cœur des communs et de la réflexion, c'est l'utilisation, la subversion de la propriété. C'est-à-dire, on va accorder, on va permettre par contrat d'adhésion avec des choix un peu différenciés, on va permettre à un créateur, par exemple, d'utiliser sa propriété intellectuelle pour proposer aux autres de participer, proposer aux autres de collaborer avec lui, éventuellement proposer de rester dans la communauté, puisqu'il y a des montages différents, vous pouvez partager à l'identique ou pas, vous pouvez choisir des versions différentes. Et donc, sur le fondement d'une propriété intellectuelle qui, à l'origine, avait été le bloc contre lequel certains s'étaient élevés, pas tous, mais en tout cas qui avaient déclenché l'extension de la propriété intellectuelle, qui avait déclenché une certaine résistance chez certains. Sur ce fondement-là, par subversion, on va proposer précisément de s'en servir autrement. Et donc ça, c'est une ligne directrice dans les communs qui fait qu'on commence à regarder la propriété autrement, pas seulement pour l'exclusion qu'elle représente.
Et l'idée de Laurence Lessig, c'est que c'est le caractère commun d'Internet qui permet l'innovation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Est-ce que c'est nécessairement ce caractère commun qui permet l'innovation, le renouvellement ? Sébastien Broca.
Oui, ce qui est certain, enfin, c'est la fameuse métaphore qu'on prend souvent du standing on the shoulder of giants. C'est l'idée que tous les auteurs et les créateurs, finalement, se sont juchés sur les épaules de ceux qui les ont précédés et ont besoin d'accéder à l'information, à la connaissance passée pour créer. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait exact. Mais je voudrais aussi peut-être ajouter un petit complément à ce que vient de dire Judith, qui me semble intéressant. C'est de revenir sur la création des Creative Commons, donc en 2003 par Lessig. Pourquoi est-ce qu'en fait il a cette idée? Il a cette idée parce que, auparavant, il s'est battu contre une loi d'extension, d'allongement du copyright, c'est le Copyright Term Extension Act de 98 aux États-Unis qui porte le copyright à 70 ans après la mort de l'auteur, à 95 ans pour les copyrights, enfin, après publication, pour les copyrights d'entreprise. Et Lauren Sleeting donc trouve que cette loi est une loi scélérate, quoi, qui vraiment allonge de manière indue la durée du copyright, et donc il va jusqu'à la Cour suprême pour essayer de faire invalider la loi en arguant du fait que dans la Constitution américaine, normalement, le copyright est censé être subordonné au fait de promouvoir la progression des sciences et des arts utiles. Et donc Lessig dit, ben non, l'allongement du copyright ne fait rien justement pour promouvoir la créativité, les sciences et la culture. Sauf que la Cour suprême lui donne tort, et donc c'est finalement suite à cet échec de changer les choses par le biais de la politique institutionnelle, par le biais de la loi, qui se dit, bon, ben dans ce cas-là, je vais faire ce qu'il appelle un hack privé, je vais créer des nouveaux outils qui vont permettre de faire en quelque sorte du domaine public volontaire, puisqu'on ne m'a pas permis de faire du domaine public par le biais de la loi.
Et alors aujourd'hui, il y a plus d'un milliard d'œuvres qui circulent sous une licence Creative Commons sur Internet. Et en janvier 2012, il y a un accord qui a été signé entre Creative Commons et la SACEM qui met en place une option sur le site de la SACEM qui permet aux membres de choisir les licences Creative Commons à condition que l'utilisation de l'œuvre ne soit pas commerciale. On peut dire qu'aujourd'hui, les Creative Commons continuent de se développer, ou d'une certaine façon, c'est une façade, Judith Rochefeld?
Alors, la réponse est un peu paradoxale. Alors, oui, du point de vue des Creative Commons, avec énormément de difficultés juridiques aussi, parce que ce sont des agencements qui ne sont pas faciles, des respects de contrats qui ne sont pas forcément faciles entre pays, s'il y a des œuvres variées ou à composantes variées, c'est compliqué. Et par ailleurs, d'autres directions qui auraient été vers cette mise en partage de certaines œuvres. Je pense par exemple à un domaine public informationnel volontaire où l'auteur aurait pu faire passer dans le domaine public son œuvre. On peut tout à fait en discuter. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Je ne les reprends pas ici, mais ça avait par exemple été proposé en 2016 lors de la discussion de la loi pour une République numérique porter une protection particulière au domaine public informationnel pour que l'usage de tous soit protégé. Bon, ça c'est une chose. Et il y avait cet autre versant d'une possibilité pour l'auteur de décider que son œuvre serait une chose commune ou qu'elle passe dans le domaine public de la propriété intellectuelle, l'envers de la propriété intellectuelle ou un certain envers de la propriété intellectuelle. Et là, c'est vrai que pour des difficultés juridiques, pour des difficultés aussi philosophique, cette direction n'a pas été suivie, ça n'a pas été une réussite. Donc on a des avancées, des reculs, ce qui est tout à fait normal, enfin en tout cas c'est conflictuel et on a ces créations qui dans la pratique, on peut par exemple citer Wikipédia hein, qui est sous Creative Commons et qui fonctionne et qui donne une vitrine importante à ces licences.
À cette initiative, alors les communs numériques ne sont donc pas strictement libres d'accès puisqu'ils sont régis par des licences. Alors pourquoi est-ce que c'était nécessaire? C'est ce qu'on va voir maintenant, car aujourd'hui les communs font face à différents types de menaces, vous l'avez dit. Yann Moulier-Boutan parle de risque, je cite, d'enclosure des communs intangibles de l'esprit, c'est-à-dire un risque de privatisation de ces communs immatériels. Qu'est-ce qu'il entend par là, Sébastien Broca?
Ce qu'on entend en général par enclosure, c'est que des ressources qui étaient ouvertes, largement accessibles, se retrouvent refermées parce qu'on y remet une forme de propriété exclusive. Donc c'est vrai que c'est toujours une des menaces qui pèsent sur les communs, c'est qu'effectivement ces ressources soient de nouveau encloses. Alors cela dit, les communs sont quand même... Le mouvement des communs plutôt a réussi à créer un certain nombre d'outils assez robustes hein, pour résister à ces menaces, et c'est notamment l'outil du copyleft hein, donc ça vient encore du logiciel libre, c'est cette idée que vous mettez dans la licence qui s'applique à votre logiciel libre, vous mettez une clause qui justement empêche un acteur privé de s'approprier le code, le logiciel, et de l'enclore à nouveau. Donc de ce point de vue là on a quand même des outils juridiques qui maintenant sont assez robustes pour éviter ces phénomènes d'enclosure, là où à mon avis avis, les problèmes sont plus sérieux et là on a moins de réponses, c'est sur la question du financement de la production de ces communs et de la rémunération de ceux qui les font. À mon avis, la problématique, elle est aussi là-dessus aujourd'hui.
Alors justement, en juin 2018, la directrice exécutive de la Wikimedia Foundation a publié sur le site Wired un article qui exigeait que les multinationales Facebook et Google donnent plus d'argent à Wikipédia, et elle partait de ce constat, du constat que ces deux plateformes utilisent de plus en plus les contenus de Wikipédia pour enrichir leurs propres offres. Donc c'est notamment via les assistants vocaux de type Siri ou Alexa qui renvoient directement sur des articles Wikipédia lors de demandes d'informations. Comment expliquer cette démarche de la part de la Wikimedia Foundation et quel problème est-ce que cela pose, Judith Rochefeld?
Alors cette démarche, elle s'explique assez facilement, c'est-à-dire que l'un des modes de financement, donc on va en discuter évidemment par ailleurs, mais c'est le don individuel, c'est le financement participatif, c'est le fait que certains vont donner de leur temps pour développer un logiciel, pour écrire une contribution. On n'a pas parlé beaucoup de sciences participatives, mais il y a beaucoup, beaucoup d'outils numériques où vous allez photographier l'oiseau qui est dans votre jardin ou dans votre forêt, l'envoyer à la plateforme citoyenne qui va proposer une cartographie de l'animal, de l'espèce. Donc on a énormément de contributions, soit en travail, soit en organisation, en gouvernance ou autre, qui font que on a à financer une partie de cette participation, l'organisation du commun. Et l'un des financements assez classiques, effectivement, c'est le don. Alors, le problème que ça pose tout à fait directement, c'est de se mettre sous la dépendance d'un financeur qui, plus il sera généreux, plus risque de vous demander des retours sur investissement ou que les usages que vous proposez ou les contenus que vous proposez soient orientés. Je ne dis pas du tout ça pour Wikipédia, mais voilà l'un des problèmes dans l'abstrait que ça peut poser.
Et le problème peut-être, c'est que Wikipédia est en quelque sorte victime de son succès. Et alors le problème, c'est peut-être pas tant la surexploitation, puisqu'elle est quasiment impossible, quand on parle de ressources immatérielles, comme on l'a vu, mais c'est bien l'épuisement du noyau des contributeurs, Sébastien Broca.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a pas en place. Je voyais pas plus tard que ce matin, il y a eu un article dans la revue The Wire, sur la revue Wired, revue américaine, qui propose une nouvelle fois, mais c'est un vieux serpent de mer, de rémunérer les contributeurs à Wikipédia en disant, ben voilà, une des manières de justement d'éviter ce que vous venez de dire, à savoir l'épuisement du noyau des contributeurs, ce serait de rémunérer ceci.
Qu'on serait loin de l'esprit des communs.
Voilà, sauf qu'on serait loin de l'esprit des communs et que ça pose tout un tas de questions. Effectivement sur l'indépendance des contributeurs, sur le savoir par qui ils seraient rémunérés, dans quel sens ça influe sur leur contribution, sur la manière dont on va déterminer les montants, est-ce que corriger trois fautes d'orthographe, du coup, ça donnera une contribution, est-ce que si ça donnera une contribution, c'est uniquement de faire un article quasiment dans son entièreté, bon, etc. Donc vous avez plein de questions qui sont très très difficiles, et c'est vrai que de manière générale, effectivement, il y a une tension là entre la culture des communs et cette question de la rémunération qui n'est pas facile de traiter.
Et cela alors même qu'on aurait pu croire que le numérique justement allait pouvoir dépasser cette fameuse tragédie des communs dont parlait Hardin dans les années 60, quand il expliquait que les communs n'étaient pas viables, il parlait alors des ressources matérielles. C'est une sorte de nouvelle tragédie des communs revisitée à laquelle on assiste, Judith Rochefeld.
Oui, d'une certaine façon, c'est une nouvelle tragédie des communs, ou c'est l'une des tragédies du commun pour ceux qui sont intangibles. Et SIC, par exemple, l'avait très très bien identifié parce qu'il opposait systématiquement la difficulté surexploitation pour les ressources naturelles et difficulté de production pour les ressources intangibles. C'est difficile de compter à long terme sur de la gratuité, de la participation, du volontariat, même si on constate quand même que c'est une sorte d'économie très forte et qui se maintient avec beaucoup de participation citoyenne, par exemple.
Alors l'un des problèmes, c'est que les communautés du logiciel libre se sont placées en quelque sorte elles-mêmes dans une situation de fragilité en recourant à des infrastructures qui peuvent facilement être capturées, rachetées par le capital. On a un exemple récent, le rachat de GitHub par Microsoft pour un montant de 7,5 milliards de dollars. C'était en juin dernier. Alors GitHub, c'est la bible des développeurs du monde entier et elle appartient désormais au géant du net américain Microsoft, connu lui pour sa suite logicielle fermée, Windows. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s'en explique.
La chose la plus importante avec la communauté GitHub est de rester fidèle au fondement même de l'ethos Developer First, que GitHub a d'ailleurs toujours eu. Le fait est que Nat Friedman devienne le CEO et que c'est un vétéran de l'open source et qu'il va diriger l'entreprise du coup avec cette idée. Chris, qui est le CEO de GitHub, et moi-même avons d'ailleurs énormément discuté de l'ethos de la compagnie, et elle restera la même, fonctionnera indépendamment. Ce sera une plateforme ouverte, en fait. Et je pense que la plupart des développeurs vont nous juger à nos actions récentes. Et nos actions vont de l'avant. Nous allons devoir gagner la confiance de chacun au quotidien, et nous y ferons particulièrement attention. Mais nous sommes excités, car je pense qu'à la base, Microsoft est une compagnie de développement d'outils. C'est donc quelque chose qui nous vient très naturellement. Et honnêtement, gagner la confiance de nos clients par nos actions quotidiennes, c'est notre façon de vivre.
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont très bien compris l'intérêt qu'elles pouvaient avoir à racheter ce type de plateforme, Sébastien Broca.
Oui, et puis l'extrait qu'on vient d'entendre est assez intéressant. On voit bien l'exercice de relations publiques auquel a dû se livrer le PDG de Microsoft, étant donné que, quand même, historiquement, Microsoft est l'ennemi du logiciel libre et de l'open source. Le précédent PDG, Steve Ballmer, avait qualifié le logiciel libre de cancer, quand même, à la fin des années 90.
Donc là, on a un retournement de veste complet.
Donc, on a un retournement assez complet et qui est intéressant parce qu'en fait, au-delà du seul cas de Microsoft, ce qu'on voit, c'est qu'on avait jusqu'aux années 2000 une opposition finalement assez frontale entre les communs qui étaient essentiellement développés dans un monde non marchand et de l'autre côté le monde de l'économie de la connaissance symbolisé notamment par Microsoft. Et en fait là les frontières sont devenues beaucoup plus poreuses vu qu'on voit que des grands acteurs du numérique ou de grandes plateformes, Microsoft mais aussi évidemment Google, Facebook et d'autres, s'appuient maintenant de plus en plus sur certains communs, notamment le logiciel libre mais aussi Wikipédia comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc là de ce point de vue là on a un contexte qui est bien différent que de ce qu'il était il y a 20 ans.
Et alors, est-ce que Microsoft avait besoin de racheter GitHub ? Comment comprendre ce rachat, Judith Rochefeld ? Et on peut noter aussi ce terme d'éthos qui est mobilisé énormément par le PDG de Microsoft, Satya Nadella.
Alors, déjà, je voudrais juste faire un ajout à ce que vient de dire Sébastien, c'est que sur cette articulation des deux sphères, il y avait aussi les travailleurs d'IBM, de Microsoft ou d'autres grands du numérique ou de l'informatique qui étaient mis à l'ouvrage pour développer du logiciel libre. L'introduction de briques de logiciels libres dans des logiciels propriétaires fait qu'on a eu ces articulations et on a eu un intérêt pour ces grands... Alors là, pas du numérique, mais de l'informatique au départ, un intérêt à s'investir sur ce territoire des communs qui était assez productif, en fait,
de code source.
Eh bien, leur production était suffisamment remarquable pour que ce soit intéressant et que beaucoup de logiciels intègrent des briques de code source qui avaient été développées par ailleurs. Donc l'imbrication était très forte.
Sébastien Broca.
Oui, moi, il me semble que, enfin, de manière peut-être un peu schématique, mais on peut dire que si on se place du point de vue de ces entreprises, l'intérêt des communs, c'est quand même de baisser le coût du travail nécessaire à la production d'un certain nombre de biens et de services. Et donc ça, c'est ce qu'on a bien vu avec l'exemple de Linux, qui est devenu en fait une sorte quasiment de joint venture entre toutes les grandes entreprises de l'informatique et du numérique, qui du coup... ont demandé à partir de la fin des années 90, et IBM effectivement était précurseur dans cette histoire, à leurs salariés de contribuer à Linux. Et donc l'intérêt pour ces entreprises, c'est que d'une part que Linux leur permet en fait de mutualiser leurs dépenses de R&D, au lieu de faire chacun dans leur coin la même chose, ils envoient chacun un certain nombre de leurs salariés travailler sur Linux et tout le monde profite de la ressource. Et puis le deuxième intérêt, c'est que ça leur permet aussi de bénéficier d'un travail qu'ils n'ont pas à payer, qui est le travail gratuit, bénévole d'un certain nombre de développeurs. Donc voilà, l'intérêt des communs, du point de vue du capital, pour le dire comme ça, c'est de baisser le coût du travail, finalement.
On assiste en tout cas à un mouvement assez général. Elon Musk, le fondateur de SpaceX et de Tesla, a contribué en décembre 2015 au projet OpenAI pour intelligence artificielle qui innove en open source. Même chose chez Google, qui en novembre 2015 a libéré le code source de TensorFlow, sa plateforme d'intelligence artificielle. Alors, l'open source se développe. Avec quelles conséquences? On écoute les explications d'Amaël Guiton, journaliste spécialiste du numérique à Libération.
On a beaucoup de jeunes développeurs qui ont l'habitude de travailler de manière collaborative, donc ça change aussi un peu les manières de faire. Et puis, ils sont tout simplement rendus compte que pour les aspects, on va dire, non différenciants, pour les briques de base, eh ben, effectivement, l'open source, c'est plutôt une bonne affaire. Parce que justement, tout le monde participe, ça permet d'aller vite, etc. Et donc, en fait, on se retrouve dans la situation où on a effectivement du libre et de l'open source dans plein d'endroits. C'est ça qui fait tourner des serveurs web, c'est les briques d'Android. D'ailleurs, Android est en grande partie open source, mais pas totalement. Donc, on va dire, effectivement, les matériaux sont de plus en plus ouverts, on a de plus en plus de libre et d'open source. En revanche, dès qu'on est dans le produit fini, c'est là que ça se referme. Et donc, dire que l'open source et le libre ont gagné, c'est très trompeur. Ça a effectivement gagné dans plein d'endroits, y compris parce que les fabricants eux-mêmes, les éditeurs, se sont rendus compte que c'était rentable. Et dès qu'on arrive à l'utilisateur, c'est-à-dire en bout de chaîne, c'est là que tout se referme petit à petit.
Donc on l'entend, effectivement, cette idée selon laquelle l'open source aurait gagné est fausse, selon Amaël Guiton de Libération. Et alors on voit aussi Uber et Airbnb qui détournent et capturent à leur profit les dynamiques collaboratives. Vous avez cité Linux, donc c'est effectivement un cas assez différent, qui reste libre. Mais dans ce cas, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit toujours d'un commun dans la mesure où il n'est plus auto-gouverné, au sens où on l'entend au sens où l'entend la théorie des communs, Judith Rochefeld? Est-ce qu'on peut encore considérer Linux comme un commun?
Une fois que c'est refermé par une plateforme qui se l'approprie, avec une propriété plus classique, non. Et sur ces questions, ce qui est aujourd'hui discuté, précisément sur ce constat, je dirais, ce qui est aujourd'hui discuté, c'est comment... Alors, soit on s'oppose complètement à cette direction, soit une autre direction qui n'est pas forcément antinomique, c'est de se demander comment on peut leur imposer une réciprocité, comment on peut vérifier une participation au commun. Est-ce qu'on peut les obliger à contribuer? Est-ce qu'on peut les obliger à ouvrir? Donc il y a toutes ces questions sur la table. C'est vrai, on parle beaucoup du logiciel, mais on a des questions qui sont aujourd'hui analogues sur les données, c'est-à-dire ces plateformes qui peuvent développer de l'intelligence artificielle à partir de données, de comportements, de nos navigations sur Internet, de nos reconnaissances d'un chat, d'un panneau, d'un chien, d'une voiture. Donc ces données qui sont nos comportements à tous, qui permettent de développer de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut forcer, et l'Allemagne est en train d'y penser très sérieusement, est-ce qu'il faut forcer à une mise en partage? Alors là, on n'est pas dans un commun gouverné, hein, on serait dans une obligation de mise en partage du type c'est une infrastructure essentielle, c'est une base sur laquelle tout le monde doit partir pour innover, et vous allez être forcé à les ouvrir pour que tout le monde participe. Donc on a plusieurs, je dirais, réactions possibles qui sont aujourd'hui sur la table, qu'elles soient étatiques ou avec des propositions de réciprocité.
Toute la question, en effet, Sébastien Broca, c'est comment soutenir ces infrastructures sans tomber dans un modèle commercial qui est à l'opposé de l'esprit des communs.
Oui, alors c'est pas forcément c'est pas forcément le modèle commercial en tant que tel. Le fait qu'il y ait des modèles économiques autour des communs, ou le fait que les gens gagnent de l'argent avec des communs, bon, certains peuvent le refuser, mais moi je considère pas que ce soit forcément un problème. La question, c'est plutôt quels modèles économiques sont respectueux des spécificités des communs. Et c'est vrai que ce qu'on voit par exemple avec un exemple comme Linux, c'est qu'en fait le Linux reste, pour répondre à votre question tout à l'heure, Linux reste un commun dans la mesure où la ressource, le code, il est quand même protégé par des licences, donc il n'a pas été enclos justement, on parlait d'enclosure tout à l'heure, donc le code en quelque sorte reste un commun. Par contre, là où c'est plus vraiment un commun chimiquement pur, c'est qu'au niveau de la gouvernance, on a une gouvernance qui est quand même assurée par ces entreprises et plus vraiment quelque chose qui est autogéré par des contributeurs. Donc c'est ça qui différencie par exemple Wikipédia de Linux, me semble-t-il.
Et on pourrait par exemple créer des licences originales dont l'usage commercial serait réservé aux créateurs de la ressource. C'est une des options qui sont sur la table.
Oui, alors il y a beaucoup de réflexions depuis quelques années sur le fait justement de créer de nouvelles licences pour discriminer entre les différents utilisateurs des communs numériques. Alors soit on va discriminer, en regardant qui fait quoi, qui contribue. Donc les entreprises, par exemple, qui ne contribuent pas ne pourraient pas utiliser la ressource, alors que celles qui contribuent à enrichir le commun pourraient l'utiliser. Soit dans d'autres propositions, vous avez des distinctions plus politiques, on va dire les entreprises lucratives n'ont pas le droit d'utiliser le commun, mais des coopératives ou des associations pourraient le faire, par exemple. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep trucking on, on, on.
Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the street become true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days, they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down.
Vous écoutez France Culture ? Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
On écoutait Truckin', extrait de l'album American Beauty sorti en 1970, album des Grateful Dead dont le parolier John Perry Barlow, mort en février dernier, était un pionnier de l'internet libre. Il est notamment l'auteur d'une déclaration d'indépendance du cyberespace devenu mythique. Et on est toujours avec Judith Rochefeld, professeure de droit à Paris 1, et Sébastien Broca, sociologue, maître de conférence à Paris 8. Et on parle des communs numériques. On va maintenant poser la question du rôle de de l'État, quel peut et quel doit être le rôle de l'État. On écoute le point de vue de François Hollande, c'était le 20 septembre 2016.
La priorité, c'est de partager les biens communs numériques, permettre que cette invention formidable, ces technologies qui permettent de faire circuler de l'information, puisse être en soi une façon de décider, de participer, de contrôler et d'agir. Et il y a une inégalité qui peut être terrible si les biens numériques sont les biens de quelques-uns au lieu d'être les biens de tous. Et si les technologies sont accaparées par ceux qui ont déjà la puissance économique.
Voilà, pour François Hollande, c'est à l'État de garantir les biens communs numériques. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque peu paradoxal ou en tout cas contraire à l'esprit même du commun, Judith Rochefeld, cette intervention de l'État ?
Alors, il y a plusieurs esprits du commun. Donc, il faut peut-être lui redonner son altérité. L'Internet était assez libertaire, certes, mais par exemple, les théorisations d'Ostrom ne sont pas des liés de l'État. Pour ma part, je n'ai aucun problème à articuler ou avoir des articulations entre commun et État. Là, la première articulation qui est proposée dans ce discours, et d'ailleurs, il a parlé de bien commun et non pas de commun, c'est-à-dire, c'est l'idée de partage. C'est l'idée de soutenir l'idée de partage. Donc là, on abandonne l'idée de gouvernance collective d'une ressource. Il parle de l'idée de partage, de mettre des informations, des éléments numérisés en partage. Alors ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs politiques qui sont impulsées actuellement, alors pour des raisons qui peuvent être très paradoxales, mais je donne un exemple et je m'explique. C'est par exemple une politique d'ouverture des données publiques. J'ouvre mes champs de données, par exemple, on peut aller de la banque de données ouverte de la ville de Paris sur les cafés à 1 euro dans la ville, ou j'ouvre mes données de circulation dans une ville parce que quelqu'un sur ce jeu de données pourra innover et en faire une start-up, une activité économique, etc. Donc là où c'est assez paradoxal, c'est que cette idée de partage actuellement, elle est extrêmement liée dans les politiques actuelles à l'idée d'une innovation activité économique, moins à l'idée de contribution citoyenne. Mais elle est quand même mise en avant sur beaucoup de secteurs. Donc on a cette première idée de mise en avant de certains partages, données publiques par exemple, ou encore données scientifiques, les chercheurs, s'ils sont financés à 50% par des fonds publics, peuvent décider de mettre, après avoir publiés dans une revue, peuvent au bout d'un certain temps, 6 mois ou 12 mois selon le type de science, peuvent décider de mettre sur une archive ouverte à destination de toute la communauté scientifique et citoyenne le fruit de leur travail, parce que l'idée c'est que ça vient de fonds publics et que le partage est important. Donc on a cette première politique de mise en partage avec des ressorts qui sont parfois loin ou près du commun.
Mais alors justement, où est-ce qu'on en est ? Parce qu'il y avait eu cette tentative que vous citiez tout à l'heure entre 2014 et 2016 de faire rentrer dans le droit français la notion de domaine public informationnel à l'occasion du débat sur la loi pour une république numérique. Mais cette proposition, finalement, ne sera pas portée devant le Parlement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce blocage ? Est-ce que c'est lié au rôle des lobbies, par exemple, Judith Rochefeld ?
Alors là, je dirais que c'est le deuxième versant. On a des éléments numériques. Encore une fois, je ne parlerai pas de commun, par exemple, pour des œuvres qui sont passées dans le domaine public, c'est-à-dire l'auteur les a exploitées pendant un certain temps et au bout de ce temps-là, pour prendre l'exemple le plus courant, ses droits patrimoniaux, ses droits de se rémunérer sont épuisés et l'œuvre passe dans le domaine public. Et l'idée était de défendre l'usage de tous contre, par exemple, une réappropriation par une plateforme. Je numérise cette œuvre, une partition de musique, c'est l'exemple qui a beaucoup circulé, je numérise cette œuvre, le fait de l'avoir numérisée me permet de remettre un droit de propriété intellectuelle dessus, et l'idée aurait été de sacraliser, le terme n'est pas très bien choisi, mais de marquer le fait qu'une fois que c'est dans le domaine public, l'usage de tous s'impose et la réappropriation est difficile. Alors, C'est une idée qui avait aussi été défendue, Sébastien y faisait allusion, devant la Cour suprême américaine, l'idée que ce qui est devenu dans le domaine, ce qui est passé dans le domaine public doit rester dans le domaine public, et que les réappropriations par d'autres pour, sur ce fondement, faire des profits ou autres activités ne seraient pas légitimes. Peut-être que ce n'était pas encore mûr, peut-être que la discussion va se poursuivre, mais c'est vrai, pour donner peut-être un fondement plus philosophique à pourquoi ça n'a pas marché avant d'aller vers les lobbies, évidemment, tout ça est tout à fait conflictuel, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, il est inutile de le nier. Mais je dirais plus philosophiquement, c'est vrai qu'on a rarement fait apparaître, parce qu'on s'est facilement, et pour des belles raisons philosophiques aussi, habitué à la propriété privée, qui à la Révolution française avait été liée à l'idée de liberté individuelle. Je peux avoir l'usage de mes biens sans passer par quelqu'un d'autre. On s'est habitué à cette idée. Et l'envers de cette propriété, qui serait l'inappropriable, la non-propriété, le statut de l'inappropriable, a été occulté. Et là, le domaine public, c'est un bon exemple de l'inappropriable n'a pas de statut.
Donc on a donc des blocages qui sont à la fois politiques, économiques, philosophiques, qui expliquent cette difficulté à rendre accessibles ces ressources communes.
Oui, moi je pense que Judith Rochefeld a très bien présenté les choses. C'est vrai qu'il y a des blocages des deux côtés. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous citiez John Perry Barlow. C'est vrai que John Perry Barlow est un peu l'emblème, notamment sa déclaration d'indépendance du cyberespace, de cette idée qui a été très forte dans la culture d'Internet, une forme de libertarianisme, même, c'est-à-dire d'une hostilité très très franche envers l'État et envers même le droit. Enfin, si on relit la déclaration d'indépendance du cyberespace, John Perry Barlow nous dit dit aux États, vous n'avez aucune légitimité à prétendre réguler d'aucune manière que ce soit Internet. Alors on voit bien que l'histoire lui a donné tort, hein, mais on voit comment il y a ce fond libertarien qui est très fort. Et ensuite, alors il y a aussi évidemment des blocages de l'autre côté, du côté de l'État. Et ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, dans ce que vient de dire Judith, c'est qu'on voit que l'action de l'État peut être multiforme. En fait, il y a la question du cadre juridique, il y a la question de l'open data, des données publiques. Qui a la question de financer certaines infrastructures. Par exemple, il y a un portail qui s'appelle HAL, qui est un portail où les scientifiques peuvent mettre leurs articles en libre accès. Bon, ça, c'est financé par de l'argent public, si je ne m'abuse, par le CNRS. Donc, on a tout ça. Et puis, on a peut-être un dernier versant qu'on n'a pas encore évoqué. C'est celui de la législation sociale, si vous voulez. Alors, il y a eu quelques propositions. Alors, pour l'instant, ce sont des choses qui sont encore un peu embryonnaires, mais qui consistent à dire on pourrait envisager la création d'une forme de droit à la contribution ou d'une forme de droit à la contribution en commun, un peu sur le modèle, si vous voulez, du droit à la formation. C'est-à-dire que les salariés ou voire éventuellement les travailleurs indépendants pourraient avoir une partie de leur temps qu'ils pourraient consacrer à des projets de commun reconnus d'intérêt général, disons, comme Wikipédia ou d'autres. Donc bon, il y a plein de pistes.
Et il y a aussi la question de la protection des données, puisque le règlement européen pour la protection des données est entré en vigueur en mai dernier. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, cette loi RGPD est venue sanctuariser le caractère commun de ces données? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça, Judith Rochefeld?
Je ne le dirais pas, en tout cas personnellement, comme ça, parce que les données personnelles ont un statut tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est le reflet de notre identité, nos comportements sur Internet. Vous naviguez, vous êtes enregistré, vous mettez vos données bancaires, c'est une donnée personnelle. Donc, on a toutes sortes de données dont je ne dirais pas qu'il faille les ouvrir absolument. Alors, il y a des propositions en ce sens pour que les données soient communes. Et puis, il y a aussi des activités citoyennes ou des volontés de mettre en commun par certains citoyens. Par exemple, il y a des communautés de malades qui mettent en commun leurs données de santé afin que ça serve le développement d'une recherche, de médicaments, afin que ça serve la connaissance de la maladie. Donc, on peut avoir sur de la donnée personnelle, une mise en commun. Mais c'est vrai que c'est un matériau qui est assez spécifique et qui fait que, comme il y a un lien qui peut demeurer avec la personne, mettre toute votre vie privée ou toute votre navigation en commun peut poser des difficultés spécifiques. Voilà.
La question, effectivement, des données personnelles a présenté l'État en quelque sorte comme un bastion de la résistance aux géants du web, car il est peut-être le seul à avoir la puissance de le faire. On se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui, à Sébastien Broca.
Il y a une question d'échelle, il me semble. C'est-à-dire que peut-être que la question se pose de savoir quelle est l'échelle pertinente. Alors certains vont penser que c'est l'État. Il y a aussi d'autres projets sur les données. Je pense par exemple à ce qui se passe à Barcelone, où là, les choses passent à l'échelon plutôt municipal. Et donc là, on va considérer, il y a eu des écrits de l'essayiste assez connu, Yevgeny Morozov, là-dessus, pour défendre l'idée que face justement au pouvoir des GAFAM, l'échelon de résistance pertinent, c'était la ville. Et qu'il fallait donc faire des sortes de, alors peut-être de communs, en tout cas, voilà, de trouver des formes de gestion partagée ou de gestion commune des données plutôt à l'échelle d'une ville qu'à l'échelon d'un État. Donc la question de l'échelle, me semble-t-il, n'est pas vraiment tranchée encore.
Parce que cette question de comment les pouvoirs publics s'investissent sur le terrain de l'open source et du commun numérique est encore très ouverte. En mai dernier, lors du sommet Tech for Good, l'État a invité des acteurs comme Uber ou Facebook à réfléchir à leur contribution au bien commun. Alors on a du mal à savoir si l'État, effectivement, se situe plutôt du côté des utilisateurs ou plutôt du côté des géants du web, Judith Rochefeld.
Oui, c'est le paradoxe, ou en tout cas l'ambiguïté que je soulignais tout à l'heure. C'est-à-dire que les données ou les informations numérisées, puisqu'on parle de choses très différentes ensemble, peuvent tout à fait servir l'innovation, qui est une des pistes absolument poursuivies par nos politiques étatiques, au même titre ou en même temps que des contributions citoyennes, des possibilités de connaissances, des libertés d'expression. Et donc on a deux versants possibles de politiques qui ne sont pas toujours antinomiques, mais en tout cas qui, si elles sont réunies, peuvent introduire de l'ambiguïté.
Il y avait eu des tentatives de législation dans la directive du 17 novembre 2003. L'Union européenne mettait à disposition, sans entrave technique ou juridique, des informations publiques des administrations. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, on a l'impression que les communs numériques restent encore en marge du champ juridique. Alors, est-ce que c'est aussi votre impression plus globalement? Alors, on arrive presque au terme de cette émission, peut-être en guise de conclusion. Voilà, et plus largement, et aussi pour revenir aussi sur cette question de la puissance des lobbies plus ou moins puissants, notamment des ayants droit.
Oui, alors comment c'est toujours difficile de conclure. Je pense qu'effectivement, on est dans un moment pour les communs où il faut se poser la question des modèles économiques, de la manière dont les communs peuvent fournir aux contributeurs des moyens de subsistance. Et dans ce cadre-là, il faut penser effectivement le rôle de la puissance publique et de l'État, qui passe à la fois par le fait de créer un cadre juridique qui ne soit pas, en tout cas, pas hostile aux communs et qui soit même peut-être favorable, mais aussi par le fait peut-être de réfléchir à ce que c'est que le travail dans les communs et comment on fait pour permettre à plus de gens de travailler dans les communs et d'en vivre éventuellement.
L'objectif peut-être, Judith Rochefeld, ce serait de faire intervenir en dosant les rôles de chacun, les trois grands acteurs que sont l'État, les entreprises et les communautés.
Oui, c'est l'idée. Après, comme je le disais tout à l'heure aussi, et comme on l'a vu dans toute la discussion, il y a des conceptions diverses du commun ou des communs, avec plus ou moins d'acceptation des entreprises, plus ou moins d'acceptation de l'État. Donc ça s'invente, je dirais, pour chaque catégorie, chaque domaine, de façon différente. Et il ne faudrait pas oublier l'Union européenne dans ce système, parce que c'est peut-être là où elle a des valeurs qui s'affirment sans trop de problèmes. On l'a vu sur le RGPD, les données personnelles, on le voit sur la neutralité du net, puisqu'on a commencé par Internet bien public mondial. Et c'est peut-être là où elle a quelque chose à dire sans trop de difficultés pour le dire.
Et on voit aujourd'hui qu'il y a cette réforme du copyright qui est discutée au Parlement de Strasbourg. Et peut-être qu'il cette réforme illustre là encore ce rapport de force entre les GAFA, les géants du web, et l'État. Une fois de plus, on voit que l'Union européenne s'investit en tout cas dans ce domaine. Sébastien Bocard.
Oui, alors ça, comment dire, ce qui est compliqué avec cette directive, c'est que je sais pas très bien de quel côté se situent les partisans des communs dans cette histoire, puisque d'un côté vous avez les ayants droit qui défendent donc le respect du copyright et donc ces mesures, notamment le filtrage des contenus, donc clairement ça ne plaît pas aux partisans des communs, mais de l'autre côté vous avez les GAFAM qui luttent contre cette directive, un certain nombre d'associations, y compris de fondations comme la Mozilla Foundation, qui sont liées aux communs. Mais du coup, si vous voulez, les partisans des communs se retrouvent en quelque sorte embarqués dans le même bateau que les GAFAM. Donc c'est ça qui est, si vous voulez, un petit peu compliqué et qui montre bien le caractère un peu contrasté du paysage actuel.
La situation particulièrement paradoxale. Il est 14h52, presque 53, et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi justement de revenir sur le vote par le Parlement européen de la directive droit d'auteur.
Effectivement, exactement. Comme vous étiez en train d'en parler, cette directive adoptée à l'instant par le Parlement européen était ces derniers jours sur toutes les lèvres. C'est qu'elle pose la question de la dépendance économique des journaux et rédactions européennes vis-à-vis des géants américains du net. Et c'est le journaliste Sami Khetz, directeur du bureau de l'AFP à Bagdad, qui avait lancé l'alerte le 28 août dernier. Dans une tribune au journal Le Monde, le reporter de guerre et lauréat du prix Albert Londres s'alarmait de la baisse continue du nombre de journalistes sur les terrains de conflit. Comme l'affirme Sami Khetz, les médias qui produisent les contenus et envoient leurs journalistes risquaient leur vie pour assurer une information fiable, pluraliste et complète, pour un coût de plus en plus élevé, ne sont pas ceux qui en tirent les bénéfices.
Car cette manne publicitaire est presque entièrement captée par les GAFA.
Exactement, la presse écrite qui connaît depuis des années des difficultés voit ses articles diffusés sur les réseaux sans la moindre contrepartie financière. En 2017, Facebook et Google ont ainsi capté à eux seuls près de 90% de la publicité sur les smartphones, aujourd'hui premier dispositif d'accès aux articles de presse. Or, une partie importante des flux sur ces plateformes est justement générée par ces articles. Ce sont bien les médias, et notamment la presse écrite, qui produisent du contenu, qui attirent les internautes et qui permettent ensuite aux GAFA de vendre leurs espaces publicitaires à prix d'or.
Une situation à laquelle l'Union européenne entendait bien remédier.
Exactement. Après un rejet en première lecture le 5 juillet dernier, le Parlement européen a finalement adopté aujourd'hui un projet de directive sur le droit d'auteur qui vise à permettre une meilleure répartition des revenus entre les plateformes Internet et les créateurs de contenu. Concrètement, ce texte entend donner les moyens juridiques aux éditeurs de presse pour leur permettre de négocier des compensations financières contre l'utilisation de leur contenu. L'article 11 de ce texte vise ainsi à créer un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse. Ce droit voisin donc serait ainsi un mécanisme complémentaire au droit d'auteur existant, bénéficiant aux éditeurs de presse et non aux journalistes eux-mêmes. Il permettrait de rétablir un partage plus juste de la valeur et de la richesse créée.
Un droit qui existe d'ailleurs déjà dans de nombreux autres secteurs.
Oui, exactement. Du cinéma à la musique en passant par l'édition, le droit voisin est la norme pour rémunérer les entités créatrices. Or, la presse continuait de faire figure d'exception, étant soumise à des législations qui datent d'avant l'arrivée des mastodontes du web. C'est comme si on assistait à la création et à la montée en puissance de la radio et que les différentes chaînes pouvaient diffuser la musique qu'elles voulaient sans avoir à verser un centime aux maisons de disques concernées. L'objectif du droit voisin serait donc de contraindre les GAFA à régler une forme de redevance aux médias à hauteur des contenus publiés sur leur plateforme.
Un deuxième article de cette directive fait cependant polémique, Arjuna.
Oui, car il entend renforcer le contrôle par ces mêmes plateformes des contenus et de leur conformité avec les droits d'auteur. Or, certaines associations ont peur que cela se traduise par un filtrage automatique de tous les contenus et remettant ainsi en cause la liberté du net. Ces préoccupations sont compréhensibles et nécessiteront d'ailleurs certainement un ajustement avant l'adoption définitive de la directive ou lors de sa transposition dans le droit français. Elle nous interroge cependant sur la capacité des géants du numérique à se contorsionner en feignant d'adopter le point de vue d'associations de défense de l'Internet libre au nom de préoccupations purement financières. Les débats ont ainsi eu lieu dans une campagne de lobbying d'une rare violence, dans un camp comme dans l'autre, et l'on peut saluer dans le vote du Parlement la capacité à légiférer pour soutenir l'indépendance des médias européens. Un vote pour le bien commun, c'est suffisamment rare pour être souligné.
Join us now.
Et on se quitte sur cet hymne du logiciel libre par les Free Fenster. Merci beaucoup Judith Rochefeld, professeure de droit à Paris 1. Je rappelle l'ouvrage que vous avez co-dirigé, le dictionnaire des biens communs, paru au PUF, et aussi à qui profite le clic, le partage de la valeur à l'ère du numérique chez Odile Jacob. Et merci à vous Sébastien Broca, sociologue, maître de conférence à Paris 8 et auteur de Utopie du logiciel libre aux éditions Passagers Clandestins et publié récemment en poche. Vous pouvez bien sûr écouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.